Bonsoir, bienvenue à cette première édition sur Radio Pieds Nus d'un non court éclair, non pas l'éclair qui tonne, mais la clarté qui fait sens. Bonsoir, avant le début de l'émission, une intervention du grand, du magnifique.
Jean-Noël Lafargue.
Eh bien, nous sommes le mardi 19 septembre 2017. Vous êtes sur Radio Pieds Nus. Je suis Jean-Noël Lafargue, enseignant à l'École d'art du Havre, et on m'a chargé d'organiser l'émission de ce soir. Je n'ai rien organisé, en fait. Heureusement que les étudiants savent se prendre en main. L'auditeur devra se montrer indulgent, car je n'ai jamais organisé d'émission jusqu'ici, et à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours rien organisé. Les étudiants du master de création littéraire se sont entendus sur un thème. On a eu du mal à trouver le bon mot. Et pour le moment, je me suis fié à ce que Facebook m'a suggéré. Facebook m'a demandé de donner un nom court et clair. Donc, nous avons un nom court et clair, comme Facebook nous l'a demandé. Pour le visuel utilisé comme annonce, afin d'augmenter exponentiellement l'audience de Radio Pieds Nus, j'ai choisi de surfer sur l'émotion populaire en utilisant le visage d'un chanteur récemment disparu, Johnny Hallyday. J'ai laissé entendre à ce sujet que j'allais chanter une chanson de Johnny Hallyday. En fait, c'était un malentendu aussi. Et à présent, je le regrette, car je ne sais pas chanter. Et je vois tous les yeux braqués sur moi dans le studio. J'imagine toute la France, l'oreille contre le transistor. Je sens mes mains devenir moites et ma respiration qui devient difficile. Je n'ai aucune idée de la manière dont je vais pouvoir m'en tirer. Si j'avais mis Jean d'Ormesson à la place, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Bon, je sens que je n'ai pas le choix. Je vais devoir interpréter le début de la chanson Gabriel, sortie par Johnny Hallyday en 1976. Il s'agit d'une reprise de la chanson The King is Dead, sortie en 1972 par Tony Cole. Une chanson qui n'a rencontré aucun succès à sa sortie, ni même après. Tandis que la version française s'est maintenue en haut des ventes pendant 3 semaines consécutives. Donc je vais interpréter le début de Gabriel.
Gabriel.
Voilà, je viens d'interpréter le début de Gabriel. Et à présent, je laisse la parole aux étudiants du master de création littéraire.
Après cette prestation de Jean-Noël, tout en subtilité, en nuance et en intensité, nous vous accueillons ce soir sur Radio Pieds Nus. Je suis en compagnie de mon comparse de toujours, Jérémy. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir Guillaume.
Et donc ce soir, au programme, entre autres, en dehors des interprétations musicales de violoncelle, de hautbois et même de violoncelle, et de clavier, si je ne m'abuse, je ne sais pas, je relis mal mon programme. Il y aura également des interprétations de textes, de poésie, du spoken word et même un instant magnifique d'euphorie. Mais je laisse cette surprise pour plus tard, tout de suite, pour démarrer en fanfare, en trombone, en guitare, Camille Guillaume. Thank you. Tout de suite, une exégèse de Mulholland Drive, entre autres choses, par Joseph Favreau.
Dans le silencio, au milieu du film Mulholland Drive de David Lynch, Rebecca Del Rio chante Lulalando. C'est une reprise de Crying, écrite par The Big O Roy Orbison et Joe Melson. Dave Marsh qualifie la chanson de « rock boléro », avec des cordes hurlantes, des tympans martelés, un refrain fantomatique, la douce pression d'une guitare et un soupçon de marimba. Elle chante en espagnol une version très différente de celle de Roy. Une version monstrueusement mélancolique qui essaie de déchirer le cœur de son public. Elle est présentée sous son vrai nom, ce qui est assez étrange dans un film à ce point basé sur le faux et son double cinématographique. C'est le diable qui la présente. Quand elle arrive sur scène, il y a un frémissement imperceptible de la caméra, accompagné d'un tremblement imperceptible dans le cœur de Lynch. C'est parce que depuis des années, David est hanté par le D-Book de Roy. Il est entré par ses yeux et s'est niché dans son cœur, juste à côté d'Elvis. C'est facile d'entrer quand c'est le King qui tient la porte. C'est Dean Stockwell qui a introduit la voix de Roy. Il l'a fait dans une scène étrange où il chante dans une lampe. Orbison dira à ce sujet « Dean Stockwell did that weird miming thing with that lamp ». En fait, dans cette scène, c'est un affrontement amoureux qui se joue. Le combat entre l'image, la lumière et le son. Un son de cinéma diégétique et par-delà la diégèse comme dans un rêve. C'est tout le combat secret qui se mène dans le cœur de David Lynch et qui apparaît aussi bien dans la chanson suave de Stockwell que dans la reprise forcenée de Nicolas Cage en fin de Wild at Heart. Quand il était enfant, des éclairs de lumière violents hantaient les rêves de Lynch. Il a fallu attendre que Roy Orbison vienne s'installer dans sa tête pour les combattre. Il a débarqué comme un chevalier noir avec ses lunettes opaques et les cheveux colorés, ses cordes hurlantes en main. Il a martelé les tympans de Lynch et a fait reculer la lumière monstrueuse. Le silencio, bien sûr, c'est le lieu du mal et du faux. D'ailleurs, Rebecca Del Rio, ou son double, meurt sur scène. C'est l'espace où la musique est pervertie, rendue triste. C'est l'espace où la musique est rendue fausse. Car à Dean Stockwell s'oppose le Blue Velvet de Dorothy Valence. S'il y a des monstres de lumière silencieux et le chevalier noir, il y a plus important encore la Blue Lady. Car c'est elle qui réconcilie l'impossible avec le ciel. Et c'est elle qui marie le son avec le cinéma et qui chante un amour de chair, un amour de l'image sublime et double dans un velours sans nuages.
Merci Joseph. Tu parles de Roy Orbison notamment, qui pour moi est, enfin, je pense pour beaucoup d'autres, une sorte de rocker mythique complètement, qui pour moi aurait pu être plus grand Elvis. Je pense que Roy Orbison était victime de la différence de physique avec Elvis. Enfin, c'est une des exégèses que moi j'ai popoté toute seule, enfin tout seul dans ma tête. Je voulais te demander, par rapport à l'exégèse de la pop culture que vient de nous faire, tu penses que la pop culture a besoin de cet appareil-là, de ce commentaire-là précis, puissant, comme tu viens de nous l'offrir ?
Sur Roy Orbison, je pense non seulement effectivement qu'au niveau chanson, au niveau composition, c'est l'équivalent d'Elvis. D'ailleurs, Elvis l'a dit plus ou moins lui-même. Et pour ce qui est de cette part de l'exégèse de la pop culture, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire, surtout aujourd'hui, mais que c'est aussi quelque chose qui se fait de plus en plus naturellement. Il est évident qu'une bonne partie de séries américaines sont maintenant étudiées dans les facs, dans les lycées. Et je pense qu'on se dirige assez naturellement vers une exégèse plus générale d'éléments qui étaient considérés comme éléments de pop culture.
D'accord. Et du coup, pour revenir sur Johnny, dont le décès est double, hein, puisqu'on a perdu à la fois un de mes compatriotes belges et en même temps une icône incroyable de la chanson française. Est-ce que pour toi, à un moment donné, on va se retrouver avec autre chose que des biographies un peu à la va-vite et vraiment une exégèse de l'importance qu'il a eue dans la chanson et même en dehors ?
Pour Johnny, je pense que c'est un peu récent, en fait. À mon avis, il va falloir attendre vraiment longtemps que toute cette énergie décante avant de pouvoir commencer à avoir une analyse, un recul qui serait juste sur lui. Pour l'instant, il y a encore une espèce de mélange entre le personnage public et l'espèce de figure mythique qui s'est construit autour. Et je pense qu'il va falloir attendre un vrai recul sur son travail, sur sa musique, être capable réellement de séparer les différentes parties de sa carrière et comprendre comment ça s'est structuré pour pouvoir vraiment faire une exégèse, et en faire une analyse, mais ça sera nécessaire à un moment ou l'autre, à mon avis.
Tu penses que tu vas t'y atteler
Moi,
à un moment donné ?
Non, Très honnêtement, non, j'ai pas les connaissances suffisantes en Johnny. Je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit touché plus personnellement par sa musique, sinon de toute façon, ça pourra jamais être une bonne exégèse. Et je pense effectivement qu'il faut quelqu'un qui soit éminemment ému par Johnny pour faire ça.
D'accord, merci beaucoup Joseph.
Merci à vous.
Maintenant un texte d'Alice Baud, accompagné de je ne sais plus le nom de l'instrument.
Une sensula.
Vas-y.
Au coin du feu qui crépite, je me dis sortir de son cadavre, sortir, sortir, sortir. Du maussade, du moribond, du mou, du fade. Et sur ma joue, le feu dévore, calcine, trucide et réduit la matière à sa formule primaire, du rien. Des cendres, paf, une explosion dans le foyer. La vie, c'est quoi? Une feuille qui se tord dans le brasier? Une âme qui se tord en spectacle, qui tend et qui essaie de sortir, sortir, sortir de son cadavre. Ici, j'essaie. Ici, j'essaie de dire que je brûle de vivre et que je n'y arrive pas. Mon souffle se coupe, ma poitrine meurtrie, ma cabane de tête qui s'enferme ailleurs, loin, dans les abîmes tristes de mon vide. J'aimerais vibrer au son du jour, sortir de mon cadavre, oui, sortir de mon cadavre, et pour cela, j'implore les sieurs, les dames, les gourous, j'implore les prétendants et les prétendus, la rébellion et le feu, la bûche qui crame, ma bouche qui crie, mon crâne qui brûle, et maintenant! C'était moins qu'un spectacle. Si elle naissait dans la paume du désœuvré, dans le regard du mourant, dans le fil qui s'atténue, si la jouissance, plus qu'un anéantissement, était le contact du souffle doux sur tes lèvres mûres, la patience aveugle des amants nus, l'espoir maintenu dans la lueur des braises. Et si pour voler il fallait un fil, celui pour marcher, celui pour tenir dans le vide. Le voilà, je le déploie, et dans sa danse tourbillonnante, il emporte avec lui les miettes de mes fragilités, mes tristesses, ma désuétude. Mon humanité glapissante, les cernes de mes angoisses. Dans la solitude crue du fil, je renoue avec mes rêves doucement. Et dans l'immobilité bienvenue, l'air se fait sentir. Le tango langoureux des émotions. La patience de la flamme bleue fait monter la montgolfière jusqu'aux plaines sereines du silence. Je ne sortirai pas de mon cadavre, je le ravive dans la danse lente de l'herbe qui repousse, dans la belle ronde du renouveau, au sein du cycle infini de l'humaine condition.
Bonsoir Alice.
Bonsoir Jérémy.
Merci pour ce moment de poésie. en t'écoutant, enfin, on sent une certaine sensibilité quand même. Et j'aimerais savoir comment tu fais passer cette sensibilité par les mots et par la musique comme ça. Enfin, est-ce qu'il y a une façon pour toi de faire passer justement cette chose ?
Je pense qu'il y a un beau lien entre le toucher de l'instrument et aussi la voix, la musicalité des mots, d'essayer de trouver comme ça des images qui correspondent à leur sonorité, de pouvoir déployer un univers par la poésie.
D'accord. Et ton regard, enfin ce qu'on sent, un regard, on sent quelque chose quand même, une approche sensible justement des choses, et enfin, comment tu te définirais à ce niveau-là ? Enfin, on sent que c'est pas non plus un regard, le regard de monsieur tout le monde, enfin, c'est limite un principe de la poésie, mais tu... Comment tu qualifierais ta propre sensibilité, en fait, au monde ?
J'aurais du mal à qualifier ma sensibilité. Je pense que je suis quelqu'un de très rêveur et que la poésie que j'ai essayé de créer par ce texte est celle, finalement, du sombre, de l'angoisse, de la tristesse. Et du fin fond de cette tristesse, j'ai essayé de créer un rebond, une offrande, en fait, quelque chose qui permette de voir le monde avec un regard neuf et étincelant. Et voilà.
Bah merci, Alice.
Merci à toi.
Alors, tout de suite, Elsa, qui va nous interpréter un morceau de violoncelle.
Thank you.
Merci Elsa. Elsa Serre, notre violoncelliste. Et tout de suite, on continue en musique avec Richard Turcet.
Ta face brûle mon regard, tes lèvres séparées, tes deux dents du devant crochent celles d'en bas. Et tes yeux sombres, si sombres, de la couleur de tes cheveux bouclés qui cachent tes seins à demi nus. Tes bras voûtés retroussés sous ton pull et ta honte, ta misère, comme un mystère érotique, bouscule d'images mon inconscient. Et mon corps et ma vie marchent encore avec toi. Tu as 10 ans de plus ou de moins, gagné puis perdu autant de kilos et ton corps fatigue, ton corps énergique par les nerfs a changé. Je l'imagine sous mes mains, morcelé sous mes mains, d'une douceur sous mes mains comme avant replié. Mes mains aux grandes veines de sang qui bat pour toi, toujours pour toi, encore pour toi. Pour ton corps épanoui, pour nos voeux sous la nuit, pour l'amour qui s'enfuit de ton regard éperdu. J'ai changé mon fusil d'épaule, gauche, droite, et tourné ma queue de l'autre côté, retourné ma veste où le soleil chauffe, et même si c'est pas toi que j'ai choisi, je te garde. J'ai compris tes combats et enduré tes peines, une partie si infime que je l'assume à peine. Ta main s'est élevée pour tirer une bouffée, et sur le blanc de tes poignets, forcé d'admettre que j'ai laissé quelques traces. Tes yeux cernés à demi-clos fixent le ciel parce qu'ils sont épuisés du sol. Ton nez pointe en l'air, flaire les désastres à venir et l'odeur de ma fuite toujours et à jamais imprégnée dans ta chair. Ta mâchoire semble endurcie à mâcher, recracher ton ennui et ton cœur vacille, ton cœur inconstant par l'angoisse à briller. Je l'imagine sous mes mains, morcelé sous mes mains, d'une douceur sous mes mains comme avant replié. Mes mains en grande veine de sang qui bat pour toi, toujours pour toi, encore pour toi. Pour ton corps épanoui, pour nos voeux sous la nuit, pour l'amour qui s'enfuit de ton regard éperdu. J'ai changé mon fusil d'épaule gauche, droite, et tourné ma queue d'autre côté, retourné ma veste où le soleil chauffe. Et même si c'est pas toi que j'ai choisi, je te garde. Je me souviens de la terrasse où on buvait des cafés, place des carmes, 18h jusqu'à ce que le serveur n'en puisse plus. Je me souviens du peuple irlandais, tes yeux tout mouillés, de ton thé magnifique lâché comme ça entre deux gorgées. De notre premier baiser sur le capot de ma Peugeot, de mon envie d'avoir plus, toujours plus, de ton corps affolé par l'intrusion d'un autre, de ta mâchoire qui explose et puis tombe, tombe jusqu'à tes pieds. J'ai 10 ans de plus ou de moins, gagné puis perdu autant de kilos et mon corps fatigue, mon corps énergique par les nerfs a changé. Je m'imagine sous tes mains, morcelé sous tes mains, d'une douceur sous tes mains comme avant replié. Tes mains aux grandes veines de sang qui bat pour moi, toujours pour moi, encore pour moi. Pour mon corps épanoui, pour nos voeux sous la nuit, pour l'amour qui s'enfuit de mon regard éperdu. T'as changé ton fusil d'épaule gauche, droite, et tourné ta queue de l'autre côté. Retourné ta veste où le soleil chauffe, et même si c'est pas moi que t'as choisi, je te garde.
On continue tout de suite avec du spoken word. Je le prononce bien, Yannick ?
Ouais, ouais, c'est ça.
Par Yannick Jaffry.
Oh, baby, yeah, yeah. Oh, you know I love you, baby. I'm in love with you, yes I am. Only last night I lay you in your lonesome grave. And don't you know tonight they lay me beside you. When you die, I will take your ashes, dispose them on the silk linen, and then roll myself in everything that's left of you. Later, I will tell the maid to vacuum clean your remains. I will step into the shower and only turn the hot water on Because I know the steamy stream will meet you as its equal on my skin. When I finally wash you out of me, I will look at my naked reflection in the mirror, seeking proofs of your leaving. And I will laugh at this body that can't even properly show the chaos within. Like it's trying to hold on a tightrope under a blade rain. My hands will still be my hands. They'll still remember the last time they held yours. The last time they picked a fallen eyelash at the corner of your mouth. The first time they ever made you love. When you die, I will not welcome weeping relatives. I will not comfort our now half-orphans children. I will not accept condolences. I'll just lie in our bed. Correction. I'll just lie in my bed. I'll lie there and try to mimic your position so we can have one last thing in common that day. And when they knock at my door, I keep my mouth shut. I try to knock at yours and only feel wood echoed. So I'll play the quiet game and I'll let you win again. This time, will you slap me gently and kiss me hard, though? And if I bury myself in the comforters, will I feel alive again? The day you die, I will take every photo down from the walls. I'll throw away every gift we exchange over the years. I'll delete all the videos from my phone and laptop, darling. I'll erase even the tiniest memory of you. And when that's not enough, I'll attract Alzheimer. I'll attract PTSD. I'll attract any memory loss I can flower. I'll wait for oblivion until I forget my own face. I'll take myself back to the beginning. Yeah. I fear I will be angry at your leaving. The day you die, I will break a bone a minute until my body feels as hollow as the space you left behind. I will take all my organs one by one, liver, lungs, stomach, heart, kidneys, take it all, there's no use to me no more. The day you die, I will bury myself in cement and join you in concrete infinity. I will sacrifice this body to any god spiteful enough to let you whisper life one more time. I will jump blindfolded in front of every train, skydive and forget my parachute, take the highway the wrong way at full speed, swallow all my drugs and blame the pharmacist the day you die. I'll dive into my life towards all of my death like a claustrophobic submariner, ready to drown again. My love, the day you die, I'm dying too.
Merci beaucoup, Yanis.
Merci à toi.
Et je voulais te demander, j'imagine que tu n'es pas anglophone à la base ?
Non, pas du tout.
Et je voulais te demander comment tu es tombé sur la pratique du spoken word ?
Je suis tombé d'une manière de... C'était complètement par hasard grâce à Facebook en fait. Je suis tombé sur une vidéo d'un poète qui s'appelle Neil Ilborn qui avait fait un poème par rapport à ses tocs et je suis tombé complètement amoureux. Au début je croyais que c'était que de lui pour au final rechercher un peu plus et je me suis rendu compte qu'en fait c'est de toute cette forme poétique dont je suis tombé amoureux.
Et voilà. De quoi justement es-tu tombé amoureux dans cette forme ?
Je crois que une grande partie c'est la langue anglaise en elle-même que j'apprécie beaucoup, que la manière dont elle est utilisée, très métaphorique, très imagée, mais en même temps très précise dans sa sonorité, j'aime énormément. Et puis les anglo-saxons ont une façon différente de nous de voir la poésie. Pour eux c'est quelque chose de vraiment plus réel, de plus ancré dans ce qu'on connaît. C'est plus du storytelling que de la poésie un peu grandiloquente, et c'est ça qui m'a beaucoup plu.
Merci beaucoup Yanis.
Merci à vous deux.
Maintenant, nous allons continuer avec quelque chose d'assez spécial, de culinaire, une expérience fondamentale pour notre palais et nos oreilles, Euphorie par Jean-Élie. Euphonie, pardon.
Bon. C'était une expérience intéressante. Estimez-vous heureux de ne pas avoir eu le visuel avec. Alors tout de suite, on continue en musique avec un petit peu de hautbois.
Merci beaucoup à Estelle pour ce morceau de hautbois. Et maintenant, l'incroyable, l'inénarrable, Jérémy Morlard va nous faire part d'une de ses créations. C'est à toi, Jérémy.
Il a les doigts qui frôlent la surface, sans percer la membrane, la pellicule. Comme on peut être délicat, le plus délicat que l'on puisse être. Il flotte sur la mer et a les doigts flottants. C'est qu'il est sans vie superflue dans ses muscles s'il respecte de l'eau sa chasteté. Sur une planche, il flotte. Les doigts effleurent le bois de l'autre main, les stries, les creux, la texture lisse et la forme pleine d'angles sont sèches. La planche est sèche comme sa bouche. Et ses yeux clos, à travers eux, il voit rouge comme dans une étoile mourante. Des dessins bougent avec les spasmes palpébraux. Jaunet, orangeait, rougeait, étoilé, vasculaire. Il saurait, s'il bougeait ses lèvres, qu'elles sont depuis longtemps soudées à force d'être jointes en leur commissure. Au milieu, petite ouverture par laquelle il respire à moitié. Par le nez, il respire l'autre moitié. Mais en tout, l'on peut dire qu'il respire mal. Trop peu, si cela lui suffit. Pas à nous, en tout cas. Mais cela lui suffit. La planche serait plus une section de plancher en trois lames dilatées par l'eau, puis séchées par le soleil. Un peu moins, cependant, sous notre sujet qui s'est posé mouillé sur le bois trempé et en a ralenti le séchage. Un peu humide, le tout sera déshydraté à temps pour lui éviter fongi et pneumonie. Il se sent bien là, pourquoi non? Si ce n'est la menace de la morsure du ciel, tout est bien. La planche n'a pas besoin de lui pour avancer. Il n'a pas à s'en soucier. Heureux pour lui qu'il soit quiet à l'idée que la marée le porte et le pousse sans effort. La mer, Oui, la mer, pas un bain ou une rivière, et d'huile et préserve notre ami du souci. Les millions d'ars au cube et les quintaux de diode mouillés sous lui et toute leur puissance l'épargnent et le gratifient en se réfrénant avec violence d'un clapotis bienveillant. Il a du sel sur les poils de son corps, c'est qu'avant d'être sec et hibernant, il fut humide et paniqué. On s'habitue à la compagnie corrosive de l'eau sale. Et la mer, autour de lui, possible océan, sans rivage pour sûr, frémit avec sa peau flasque et transparente. Au fond, des cratères sinueux où elles s'engouffrent, peau eux-mêmes, tremblent et grondent et pulvérisent les plus infimes parmi leurs strates et lances, sans poignée mais avec leur sang vif pour muscle, la respiration océanique. Les poissons et les mammifères, et les poissons qui mangent les mammifères, et les planctons, les crustacés, les coraux et les algues et les mondes en suspension, et les menaces de l'imaginaire qui se tapissent sous la lumière, presque sous la terre, jouent leur rôle sans tenir leur place dans l'espace et le mouvement. Le vent rafraîchit, efface, modèle tout ce qui s'étient sur les roches. Il ajoute au chaos et à l'incertitude de la vague, lui-même soumis au peuple du dehors et au va-et-vient des flaques. Toutes ses forces se rejoignent ou s'annulent et jouent avec la peur des flotteurs solitaires. Il est sur une planche de trois lames d'un plancher, sans peur. S'il vivait, il aurait besoin de boire et il en serait mort. Seulement, les impressions dans ses yeux l'accaparent et le sauvent. Ses côtes se déploient sous sa peau quand il respire et on les imagine dressées vers le ciel comme on en verrait dans un cimetière, une plage, près des masses de cétacés crevés, l'âme verticale et blanche écartée par les poumons, par le diaphragme. Il est presque crevé, comme une baleine. Il a une mèche, rêche, en travers du front. Il a une mèche en travers du front, et la pesanteur, un peu compensée par le flottement, soulage. Et la pesanteur, un peu compensée par le flottement, soulage les nerfs du patient. Soulagé, aussi par le soleil et l'air froid et la fatigue, il n'est pas mort, mais pas plus en vie. Il est absent à l'envie et à l'ennui. Il n'est pas là, sur une planche. S'il était là, il aurait faim, il en serait mort. Il n'est pas mort, pleinement assouvi, il est parfait. Et si on lui demandait, pourvu qu'il ait touché terre, « Viens au monde et à ses vagues !» Il y viendrait sans plus de volonté. Mais impérieux, au fond, l'acte serait, sans besoin ni envie, des idées fortes sans impact, et il viendrait aux vagues, comme il en vient, sans les remous d'avant, insensible au tréfonds propre, désolé.
Merci beaucoup, Jérémy. Ce que je voulais te demander, par rapport à ce texte, est-ce qu'il parle quand même, au départ, d'une planche, de quelque chose d'assez ordinaire? Est-ce que tu aimes partir de ce genre d'objet plus quotidien pour arriver à une forme de mystique comme ce que tu nous as présenté à l'instant ?
En fait, je ne suis pas sûr que ce texte ait quelque chose de mystique. C'est un peu l'aboutissement d'un cycle poétique qui partait de la frustration qu'un individu peut ressentir dans ce monde face à son incapacité d'agir, en fait, de vraiment créer un impact sur le monde dans lequel il vit. Et ce poème arrive plutôt en fin de ce cycle et apporte une espèce de solution mythique à tout ça. Cet homme sur la planche n'agit pas, il se laisse porter, mais bizarrement, le fait de se laisser porter d'une certaine manière lui sauve la vie. C'est vraiment une fable, un mythe qui est censé représenter un absolu dans le monde dans lequel on vit, une façon de vivre en agissant pour le bien, sans souffrir. S'il était là, il aurait faim, il en serait mort. C'est vraiment une façon de dire que si sa volonté, si sa frustration se manifestait, la souffrance qui en aurait découlé l'aurait peut-être tué, l'aurait abîmé. Et quelque part, je pense qu'il faut se détacher justement de ces émotions-là et essayer juste d'agir dans le bon sens.
Merci pour cette explication de ton texte.
Et maintenant, nous allons entendre Jim et Fanny qui vont s'amuser avec un magnétophone.
D'abord, Jim toute seule.
Excuse-moi.
Il y a pas de souci.
Excuse-moi, c'est Guillaume qui a fait ce papier. Voilà. Bon.
Paysage sonore, travaux en cours, extrait 1, partie 1, premier triptyque, 2, par, pour, grâce, avec, à propos et à partir, d'Adnos, d'Eliane Radig. Le jardin s'étire, tu sais son nom, tes yeux sensibles, Eliane. Ses yeux muets, un peu humides, le jardin tangue, Radig. Des espaces s'infiltrent, vos ombres résonnent, Laura, Radig. Laura s'immisce et les grésillements s'enfilent, tremblée dès l'amorce, elle a, tu as l'orgueil tranquille. Des choses se meuvent et des choses s'enfouissent, et tu gonfles, elle est là. Dans ce jardin, tu penses, elle calfeutre pendant que l'ombre se déploie. Le temps que les coutures de la pièce se défassent, toutes les nuances passent dans ton silence. Là, elle oscille, radigue, mais tu navigues, tu te replies, elle s'illumine, le son tend, un fil qui déchire le jardin de haut en bas. Et vous trônez ici dans les déchets de la vieille jungle, tu en perçois de loin les signaux froids, tu sais peu de choses, tu sais, tu imagines, assis là, les signaux te bercent en son sein. Eliane habile, dont la lueur balance et vrille, autour s'élèvent des troncs de fumée grise, la poussière entre et file, la poussière est ce qui clôt maintenant ce jardin tranquille. Tu voudrais qu'elle se resserre, tu voudrais qu'elle abolisse tout ce qui n'est pas d'ici, l'écouteur meuble de ce monde-là. Décor où l'exploration s'endigue, radigue engluée, mais tu navigues. Les bruits s'agglutinent tout contre toi, radigue assise là, les bras au sol découvrent un tapis de feuilles solides. Il fait froid et pourtant, tu penses, tu t'enlises, et tu vois un désaccord léger. Soudain ça lancine, ton crâne marche, le tympan écroulé, les troncs hypnotisent le talc des abîmes. Peu à peu radigue se déplace de haut en bas, elle se ravise, le jardin roi devient grotte anonyme. La poussière se colle à des rochers qui s'encastrent. Un frottement s'allonge contre les cailloux. Grotte anonyme qui pour toi déracine et délabore est soudain plus facile. Tu glisses toujours immobile, elle meuble, fragile, radigue, elle t'offre et soudain le son creuse. La lumière comme un frisson s'amenuise en elle, en toi. Affermissant le larcène installé dès que posait le pied dans l'ancien jardin, maintenant sourd, et la caverne élevée là, une corde, une aiguille indique, comme une horloge enfermée. Apparaissent dans la grotte les rythmes blancs, la poussière tombe entraînée par un souffle, il n'y a aucun vent. Vient une chose qui brille sous la matière, qui brille et se répand, radigue, se déploie et répète, étend la roche et tu te demandes, cette caverne et ses rythmes. L'onde se condense et sonne sur ta peau dissoute dans l'air humide. Enfermée, Eliane sonde le feutre jusqu'au dans ton crâne, mais tu perçois d'autres chaos, leurs vibres. La roche accélère le temps, ce n'est pas sans risque. Les cailloux filtrent de l'air sans peine, fourmis minimes sur pierre dure, sur l'arsène. La caverne divague, par des coupes se déforme, par endroits se creuse, laisse apparaître qui un gouffre, qui une cime. Dans l'ovale parfait d'un coin, toi, l'oreille collée sur tes tibias, tu recueilles comme un jus strié du creux que radigue Amila. Et l'espace dans ton dos réverbère ta fatigue. Eliane sort, les creux se multiplient, s'harmonisent, plusieurs gongs légers, peut-être un peu de bronze. L'humide s'émiette, la poussière palpite sur tes membres accroupis dans la première des niches. Que cherches-tu ? Un organe bat quelque part au centre et fait tourner la cloche qui revient. Ça vacifie, tu ne sais plus, la grotte défile, l'organe s'emballe, tes muscles clignent, tu ne sais plus, mais tu suis. Le mouvement du lieu qui n'est plus que cercle qui gronde, qui n'est plus que roche qui gravite. Quelque chose se découpe à l'intérieur même de ton oreille, mais étrangement, rien ne t'étrangle. L'espace est rythme. Et radigue fait peu au regard des creux qu'elle laisse après. La poussière est ce qui...
maintenant. Tu me grises la peau. Si dans les déchets de la vieille jungle, autour de loin des signaux. Imagine, assis. Peu à peu, Radic se déplace de haut en bas. Elle se ravise. Le jardin roi de grand écroulé. Les plans s'allongent contre lesquels. Les creux sont multiples. Plus les formes sont apodiques dans la vie et se répand. La roche accélère le temps. Cette terre me bloque et traverse en place. Il n'y a aucun vent. Terme de caverne divague. Plus les formes sont apodiques dans la humide. Elles sont le bal parfait d'un temps froid. Tu aurais pris sur le tibia, tu regardes comme un geste crié. L'espace dans ton dos réverbère ta fatigue. Ça m'amuse. Bon blé. Peut-être un peu de bronze. Pour moi qui n'est plus que groche qui rentre. Quelque chose qui... La poussière.
Merci Jim et Fanny pour cette expérience sonore. Alors pour les profanes, je tiens à dire que le dispositif du magnétophone n'est pas du tout gratuit ou anodin et je voudrais que tu nous expliques, Jim, ce qui se cache derrière le dispositif et derrière cette mystérieuse Eliane Radig qui est la figure tutélaire de cet extrait.
Effectivement, pour expliquer le magnétophone, il faut peut-être en passer par qui est Eliane Radig, ce qui pour le profane n'est pas forcément évident, ce n'est pas Johnny Hallyday.
C'est le cas de le dire.
Eliane Radig est une musicienne qui a commencé à produire des sons dans les années 50. Elle est formée en musique classique, mais très vite, elle se détourne de ça. Elle rencontre des gens comme Pierre Henry, Pierre Schaeffer, des gens qui ont créé le groupe de recherche, le GRM. Et elle commence à faire des bruits, des sons qu'elle met en boucle sur des magnétophones. Ce qui l'intéresse, c'est les dissonances, les répétitions. Elle fait ce qu'elle appelle des réinjections de sons. À la plupart des gens que je croise, je la présente comme l'inventrice du drone, qui est ce genre de l'ambiance. Et cette femme-là a fait toute sa vie la musique qui l'intéressait, les sons qu'elle a voulu entendre avec 3 enfants, un mari artiste. Elle a commencé à travailler après avec un synthétiseur qui restera le synthétiseur de sa vie, avec qui elle restera plus longtemps que son mari d'ailleurs, qui est la RP2500. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce paysage-là extrêmement lancinant, c'était d'essayer de découvrir quel espace ça crée, quel espace il y a derrière. Voilà.
Merci beaucoup, Jim. Et maintenant... Maintenant, l'émission devient peut-être un peu plus grave, car nous proposons un texte, les vœux de Noël, pour la Noël, de Mathias Guattari. Feu Mathias Guattari, qui nous a quittés lâchement l'année dernière en finissant son diplôme. Voilà, il y a des fins moins honorables quelque part, et aujourd'hui, il nous présente ses vœux pour la Noël dans un texte de son cru.
Fin fond d'une forêt de Sibérie se terre une bête fabuleuse, rescapée de la grande guerre zombie. Elle est affublée d'un nez démesuré, chargé de ramures emmêlées et de chrysalides charbonneuses qui s'étiolent sous 2 yeux blafards grands comme des tambours de guerre. Son crâne difforme est recouvert d'une masse filandreuse de cheveux gluants, matière asticot, tendance drosera à feuilles rondes. Sa barbe interminable de proto-hipster estropié cache un écosystème prodigieux. Papillons, libellules, coléoptères, mulots, musaraignes, iris, ont trouvé habitat dans cette barbouze troglodyte. D'une hauteur d'environ 1,5 arbre, la créature troll métacryptique de la forêt possède la dentition d'un cachalot et l'embonpoint d'un paquebot. Elle est vêtue d'une longue robe rouge en poils de lapin rouillé, ceinte d'une large ceinture noire funiculaire, d'énormes bottes en peau de requin chourave et d'un adorable bonnet à pompons clignotants couvert de merde. « Ah, Père Noël, t'as bien changé depuis le temps !»
Terminé l'époque boule guirlande et cotillon à vendre du rêve dans les brochures promotion. Désormais, les règles ont changé. Le monde a claqué, Père Noël. Annihilé. Souviens-toi, Père Noël, en bon survivaliste, ventripotent, t'as fui ton village en carton-pâte pour sauver ta peau de pantouflard poltron. Dans le ciel d'un noir de charbon, bien au chaud dans la carlingue de ta roulotte supersonique, une main sur ta bouteille de gnôle, l'autre agrippant tes couilles molles. Tu regardes la plaine en contrebas, dans un arc de lumière voilé de brume et de nuages, tes lutins devenus zombies s'entre-dévorent la gueule, mettent à feu et à sang la bourgade des réjouissances et les rêves des derniers enfants. Pas de veine, Père Noël, la mort de tes reines marque la fin de ton règne. Depuis, les années ont passé dans ta forêt de Sibérie, tu t'empiffres de champi, Père Noël fonce-car, hallucination botanique, les lumières vacillantes du pain saupoudré d'anis te mettent, Père Noël, dans un état de fève et d'orge, ligne de fleurs blanches, poussière d'or, ivresse primordiale, Père Noël s'épanouit sous des platanes dans des jardins fleuris de fromage, danse entre les effluves pyramides des citronniers du désert, survole les lacs de jus d'herbe dans des tonneaux de viande fumée, plonge dans des cratères de scorpions rôtis cuisinés à l'argile rouge. Mais voilà qu'un incendie se déclare dans la forêt de Sibérie. Une horde de zombies affamés approche à grands pas. Père Noël aimerait attraper sa hache de survie et son fusil à pompe pour se défendre, mais il est trop enraciné pour faire quoi que ce soit. Putain de merde, Père Noël. Père Noël est encerclé, Père Noël. Ils sont là. Les enfants zombies obèses se jettent sur toi. Sa cervelle a la douceur du chocolat et son sang le goût du Coca-Cola. Son ventre, ses panettones à volonté, ses fesses boursouflées, brioche au sucre, cheveux, réglisse, doigts, sucre d'orge. Ses étrons sont croquants comme du nougat et ce pu qui gicle. Champagne millésime, la langue tout infectée, saumon fumé, oreilles encroûtées, escargot beurre persillé. Explosion de saveur. Les yeux de Père Noël ont le bon goût du flan et son nez enrhumé, vacherin glacé à la crème de marron, les couilles, chocolat fourré à la liqueur de mûre et enfin, la bûche de Noël, une succulente bûche de Noël.
Merci Mathias pour ce texte. Mais non, il n'est pas
à
là.
La fin.
D'ailleurs, vous avez tous reconnu l'apprenti sorcier de Paul Bigas.
D'une mousse fluo et de plantes herbacées, champignons translucides, fleurs de cuscute, lierre fuligineux, lichen mutant et feuillage arc-en-ciel.
C'est impoli.
Il a terminé et vous aviez tous reconnu l'apprenti sorcier de Paul Ducasse. Hein. Moi, je tiens à le dire, c'était tellement évident. Bon, maintenant arrive le clou, le pinacle de la soirée.
Après.
En termes de musique classique, Juliane et Victor qui vont nous interpréter un duo musical de violoncelle et de clavier, je pense.
Thank you.
Et maintenant Jean-Noël pour un des plus grands succès de Johnny Hallyday. C'est à toi Jean-Noël, tu es un peu en retard, vas-y, allez.
Pas au courant. Il faut que je fasse quoi? Je n'entends pas.
Chante, chante.
Je peux faire une reprise de Gabriel que j'ai chanté tout à l'heure. Mais c'est tout.
D'accord, ce n'est pas la bonne piste pour que son cœur se développe. Je demande qu'on arrête la bande-son.
Non, je pense qu'il faut qu'on fasse un que je t'aime collectif.
Je crois que Laure voulait que nous chantions tous que je t'aime de Johnny Hallyday.
Les paroles.
Et nous avons les paroles sur un téléphone portable, mais c'est tout petit. Alors j'ai du mal à dire.
On va y arriver.
Allez.
C'est un hommage en plusieurs fois.
C'est un hommage compliqué.
Et je vous rappelle que c'est collectif. Allez. Mais Jean-Noël commence.
Je sais pas chanter.
Donne-le là, Jean-Noël, donne-le là.
Quand tes cheveux... Non.
C'était un bon début.
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur. J'ai pas de bande son, du coup je sais pas si je suis en rythme.
C'est super, c'est
continue,
super.
Continue. Quand tes mains voudraient... Ah, pardon.
Ah bah là, c'est tout petit, je peux rien voir.
C'est quand tes mains voudraient bien.
Quand tes mains voudraient bien, mais que tes doigts n'osent pas. Quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Je pense qu'on va s'arrêter là.
C'était
là, on a raté le moment du cheval mort. Parce qu'à un moment, il dit mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort.
Ne sait pas, ne sait plus.
S'il t'aime. Non, c'est quoi? S'il existe encore.
S'il existe encore.
Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Comment faire mieux pour conclure?
Ah, je pense que tout est dit. Tout est dit. Après le cheval mort, en plus, ça rejoint la vie, la mort, Johnny, Jean d'Ormesson. Tout est rond comme une espèce de. D'exégèse vers l'infini qui s'exploite dans l'univers toute seule en même temps. Voilà, je pense qu'on peut pas
c'est
dire mieux.
Très beau. Ouais, on pourra remercier les gens et leur connaissance des paroles aussi.
Bonne chose. Bravo les gens.
Voilà.
Que bravo.
Merci à Jean-Noël pour l'orchestration, l'a cappella sur Johnny et le mot du début.
Merci à Camille Guillaume.
Merci à Joseph.
Merci à Yanis.
Merci à Elsa.
Merci à Alice,
Richard,
Jean-Élie,
Estelle,
moi,
ah oui, toi, à Jim, à Fanny,
à Mathias et à Jean-Noël,
encore une fois, et pour toujours,
à Juliane,
et à Victor aussi, et à toi Jérémy pour m'avoir accompagné durant cette soirée magnifique,
Emmanuel Lalande,
Emmanuel. Sur cet instru magnifique, que je vous aime tous ce soir. C'était Guillaume Sorensen et Jérémy Morlard pour Radio Pieds Nus. Thank you.
Thank you.